C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de cancel culture. Et pour m'accompagner, je suis avec Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, comment vas-tu? Je vois que tu t'es pas encore fait canceled. Bonne nouvelle.
Voilà, je suis encore là. Tu me ghostes pas, rien, non? Tout va bien.
Non, non, a priori, tout le monde est en entier.
Oui, c'est vrai qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'éclate un conflit qui oppose une communauté d'internautes à une personnalité ou même une marque bien ciblée. Et au cœur de ces conflits, eh bien, on voit très vite apparaître des invitations à l'annulation collective, au boycott. C'est ce qu'on appelle la cancel culture.
La cancel culture, alors si je dois résumer avec mes mots, c'est un moyen de discréditer, de bannir de l'espace public une personne ou un mouvement ou une œuvre par tous les moyens possibles, même si parfois, pour ceux qui regardent le débat, le lien entre la cible X et le problème Y peut même paraître confus.
Ouais, c'est pas bête, il y a un peu de ça. C'est vrai que la cancel culture, c'est une pratique qui est née aux États-Unis évidemment, et qui consiste à dénoncer publiquement les individus ou les groupes qui sont responsables d'actions ou de comportements qu'on peut percevoir comme problématiques. En France, on parle aussi de culture du boycott. On va dire que c'est la traduction franco-française.
Voilà, culture de l'effacement, où il y a un autre terme aux États-Unis, c'est le call-out culture, la culture de la dénonciation, tout simplement.
Exactement. Et il faut dire que côté US, la pratique de la délation ou de la dénonciation, c'est plutôt culturellement accepté, et ça depuis longtemps aux États-Unis. On trouve des traces historiques, c'est les fameuses affiches wanted, tu vois, qu'on voit dans les westerns. Mm-hmm. Oui, c'est un truc qui est assez entendu et depuis longtemps aux US, alors qu'en France, culturellement, pour plein de raisons et notamment historiques, on n'aime pas trop la délation. Et pourtant, petit à petit, on voit la cancel culture prendre le dessus.
Ouais, alors la cancel culture, elle est aussi parfois vue comme une substitution à la justice. Ce matin, j'ai lu un article de France Culture très passionnant. Je te mettrai le lien, d'ailleurs très philosophique, qui se demandait si ça devait vraiment exister ou pas. Enfin voilà, je te mettrai le lien. Est-ce qu'on fait une petite historique de la cancel culture?
Volontiers, vas-y.
Parce que ce mot-là, on l'entend très fort en ce moment. Il y a des articles de partout. Le terme existe depuis longtemps, même d'ailleurs depuis 2013, plus exactement. Si je dis pas de bêtises, il y a sûrement eu d'autres cas. Mais en tout cas, il a été matérialisé comme ça en 2013 suite au tweet de Justine Sacco. Ça va vous parler tout de suite, Thibaut. Tu vois déjà où je veux en venir, j'imagine. Directrice d'un service de relations presse, elle a fait un joli tweet. Elle était en voyage en route pour l'Afrique. Elle a tweeté « En route pour l'Afrique, j'espère ne pas attraper le sida. Je plaisante, je suis blanche. » Et immédiatement, des tweetos ont créé le hashtag « Est-ce que Justine a atterri ?»« Has Justine landed yet ?» Et elle était encore dans l'avion que son patron était déjà en train de condamner publiquement ses propos. Et bien sûr, elle s'est fait virer. Donc, c'était un petit peu le début. Elle s'est fait afficher. S'est fait cancel en ligne.
Ouais, c'est vrai que... Alors, sexiste, raciste, là, c'est ce dont on vient de parler, pas suffisamment écolo. Et là, maintenant, peut-être non-port du masque. La cancel culture surveille aujourd'hui le moindre faux pas des personnalités, même des individus lambda, on va dire, et puis aussi des marques et de leurs représentants. Alors, si je te dis L'Oréal, le slip français, Décathlon, HSBC, est-ce que tu peux me dire ce que ces marques ont en commun? Je pense que oui, et notamment, rien que pour cette année 2020, elles se sont toutes retrouvées à coller au hashtag boycott sur Twitter. Voilà, c'est violent, la cancel culture.
Ouais, alors ça, c'est même limite une branche extrémiste encore, le boycott. C'est un peu la même chose que le hashtag canceled. Ces deux hashtags qui sont parallèles dans cette bataille à cœur ouvert. Le slip français, L'Oréal, oui, j'ai bien les exemples. On pourrait aussi rajouter Donald Trump. Il y a le Crédit Agricole côté écologie qui se sont aussi assez souvent bousculés. Le slip français, on se rappelle, ils ont eu des débuts d'année mouvementés. Tout simplement, ils ont été pointés du doigt parce que l'un de leurs collaborateurs a fait une boulette pas cool sur les réseaux sociaux en public. Et c'est un bon moyen de taper sur le patron dans ces cas-là.
Ouais, et alors, la cancel culture, je le disais, c'est super violent. Et quand on est une marque, on va décrypter ensemble tout ça. Mais déjà, prenons la mesure de la violence de la cancel culture. La première chose, c'est que la cancel culture, ça se construit sur la présomption de culpabilité. C'est quand même vraiment ça, la mécanique. Ouais. Hein. Alors évidemment, les réseaux sociaux, et nous, on est les premiers à le dire et à en être heureux, c'est un endroit qui est salutaire pour la parole des victimes et elle est écoutée sur les réseaux sociaux, là où ce n'est pas forcément le cas, notamment, allez, je balance dans les commissariats, par exemple. C'est bien et ça permet du coup de faire émerger un paquet de sujets graves. On pense évidemment au hashtag MeToo qui a été salvateur. Le revers de la médaille, c'est que sur les réseaux, toute accusation est considérée comme vraie par défaut. Rappelons qu'en France et aux États-Unis d'ailleurs, hein, le système judiciaire il repose sur la présomption d'innocence. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Donc là, il y a quand même beaucoup de violence. Le deuxième point, c'est que la cancel culture, elle s'appuie sur un principe d'abstraction. En gros, sur les réseaux sociaux, c'est quand même pas l'endroit où tu vas pouvoir approfondir des débats, être dans la nuance. C'est pas non plus le lieu des argumentaires vraiment fournis et très développés. Faut écrire vite, faut être très efficace. Puis, faut aussi susciter l'attention très clairement. Du coup, l'abstraction remplace rapidement les détails concrets quand il y a une déclaration, quand il y a une réclamation. Quoi.
D'autant plus qu'on parle de réseaux sociaux. Alors, certains réseaux sociaux peuvent permettre de se défendre, heureusement, mais là on parle aussi particulièrement de Twitter, hein, qui est un réseau social où tout va très vite, qui est en mode micro-blogging. Donc en effet, là t'as pas le temps de te défendre, et c'est clair que dès qu'on est pointé du doigt, c'est un acharnement compulsif de la terre entière à ton égard. Tu passes un sale quart d'heure, et bien sûr, enfin la marque, toi, tout le monde passe un sale quart d'heure.
Ouais, pour revenir à l'exemple du slip français dont tu parlais, principe d'abstraction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il y a une collaboratrice du slip français qui fait une grosse connerie, qui fait une blackface, qui a la bêtise de se filmer déguisé. C'est évidemment, c'est déplacé, c'est très con, sauf que c'est dans un cercle perso et la simplification qui a été faite très très rapidement, hein, quasiment instantanément, c'était le slip français, c'est une marque de raciste. Ça, c'est le principe d'abstraction propre à la cancel culture. Le troisième point qui, moi, me semble aussi inquiétant, c'est que la cancel culture, c'est une mécanique dans laquelle tu es 100% de ce que tu dis ou de ce que tu fais. Et du coup, pour les marques, c'est extrêmement violent. Est-ce que si un de mes représentants tient un propos déplacé qui peut être interprété comme sexiste, est-ce que ça fait d'elle déjà une personne profondément sexiste? Est-ce que ça fait de la marque une marque qui ne respecte pas les femmes? Un exemple, par exemple, qu'on a connu sur un autre sujet, c'est la marque Zara. Je ne sais pas si tu te souviens de cette polémique énorme autour d'une photo issue de leur catalogue où on voyait un petit enfant noir qui portait un sweatshirt marqué « Coolest Monkey in Town ». Alors, il se trouve que c'était, j'imagine, un concours de circonstances entre cette pièce présente dans la collection et puis la couleur de peau du mannequin enfant. Et forcément, il y a eu derrière un déchaînement. Il y a eu tous les leviers de la cancel culture se sont mis en place avec derrière une logique qui était de dire, forcément, Zara, c'est une marque de raciste pour les racistes.
On microblogue en 160 caractères, donc on a intérêt à aller vite. Hein. Donc on fait un résumé rapide, et puis si ça match, tant mieux. Hein.
Alors la question, évidemment, qu'on peut se poser ce matin, allez, si on doit philosopher un peu, si on doit pousser le débat plus loin, c'est est-ce que la cancel culture, c'est une nouvelle façon de militer? Pour certains, clairement, c'est le cas. Hein. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui le territoire d'expression de toutes les luttes sociales, et la cancel culture, elle permet de pointer du doigt, peut-être de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas habituellement, aux anonymes, on va dire.
Ouais, tu vois, je te parlais tout à l'heure du Crédit Agricole, et puis plus largement, ce truc-là, il m'était revenu en tête, c'était un épisode avec Élise Lucet de sa fameuse émission, le Crédit Agricole subventionne Total, qui subventionne du forage pétrolier en mer, bref, c'est pas très écolo. Donc les écolos se font volontairement l'avocat de Total dans ces cas-là, parce que en effet, c'est pas écolo, donc c'est la faute du Crédit Agricole, donc on est en plein dans la cancel culture, hein. Il y a un double levier, et puis on essaye d'atteindre quelqu'un d'autre pour une raison qui nous est chère. Donc voilà, sur les réseaux, ça peut souvent débarquer comme ça.
Ouais, un autre exemple, celui-ci en plein cœur du mouvement Black Lives Matter, hein, L'Oréal qui prend la décision de supprimer, c'était le 27 juin, les mots blanchir ou blanchissant dans la présentation de ses produits, hein, donc dans ses pubs, sur les emballages, au profit de plutôt brillance, shiny, etc. Donc ils gomment ces mots-là. Une décision que la marque voulait forte, symbolique, et puis qui devait s'inscrire aussi dans une logique de d'évolution de la marque, de prise en compte aussi de ce sujet Black Lives Matter, etc. Et puis finalement, ça a été une grosse galère dans laquelle s'est embarquée la marque. Hein, ce qui devait être un acte de marque fort, s'est transformé en méga bad buzz, avec évidemment appel au boycott qui n'a pas tardé à se faire entendre. L'Oréal serait du coup une marque raciste qui profite du mouvement pour se faire de la pub, un truc bien dégueulasse. On compte aujourd'hui sur ce sujet plus de 75 000 tweets appelant au boycott de la marque. Donc on le voit, c'est pas forcément évident de prendre la parole sur ces sujets-là. Là, je suis à peu près persuadé que L'Oréal était parti du principe de on écoute ce que disent nos clients, ils attendent de nous qu'on mette des actions en place, on va faire une action symbolique qui est celle de modifier des mots. Sauf que voilà, parfois la meute se déchaîne et c'est bien difficile d'en sortir.
C'était peut-être pas le meilleur moment de le faire. On sait que Black Lives Matter, on en a parlé d'ailleurs, on avait fait un sujet là-dessus, c'était un grand débat et forcément si tu allais dans la mauvaise direction, tu pouvais te faire taper sur les doigts.
Voilà, alors soyons clairs, je pense que c'est intéressant de le dire tout de suite, soyons clairs, on ne se remet jamais vraiment totalement d'une crise. Lorsque la meute se déchaîne sur les réseaux sociaux, ça laisse des traces qui restent longtemps. Zara, il va se trimballer son histoire de marque raciste et de t-shirt monkey pendant un petit bout de temps. C'est comme ça. Et même si la justice peut vous donner raison ensuite, rappelons que le principe de cancel culture, le principe, c'est annulation sociale globale.
Oui, c'est un tribunal public.
Exactement. Et du coup, il y a toujours cet adage, il n'y a pas de fumée sans feu. Du coup, évidemment, la question de ce matin, c'est est-ce que les marques doivent avoir peur de la cancel culture ? On espère déjà avoir donné un premier élément de réponse, c'est oui. Et la question qu'on peut maintenant se poser, c'est comment on se sort de tout ça et surtout comment on peut faire face. Je dirais que la première chose, c'est rappeler, et surtout maintenant qu'on est dans une phase des marques engagées, où toutes les marques souhaitent prendre la parole sur ces sujets, sont très conscientes aussi de ce qui se joue aujourd'hui au cœur de notre société, attention à ne pas prendre à la légère ces annonces de marques.
Ouais, alors tout à fait. C'était mon petit 2. Carrément, faire attention à ces annonces de marque. Moi, j'aurais même un bis avant tout. Déjà, c'est d'être vigilant sur ce qui se passe sur sa marque, sur les réseaux sociaux. Ça paraît con, on est habitué à le répéter. C'est le premier prérequis, être toujours en veille sur sa marque. Le deuxième, qui peut-être même peut se mettre entre les deux, c'est de bien briefer ses collaborateurs. Enfin, on pense au slip français, c'est tout bête, mais voilà, savoir ce qu'ils ont le droit de faire ou de pas faire pour éviter des dérives incontrôlables et de bien faire un état des lieux de sa marque, de ses relations, de ses pain points aussi. C'est le meilleur moyen de les anticiper. On ne cherche pas à se cacher, mais peut-être il y a des choses dans nos partenaires. Tu vois, le Crédit Agricole, ça va très loin. Ça peut arriver. Nous, si on prend une entreprise de livraison qui fait des conneries avec ses salariés, on peut se retrouver accusé dans un processus comme ça. Donc voilà, ça c'est les choses avant. Et puis ensuite, bien sûr, être prêt à anticiper.
Voilà, alors anticiper, on a déjà parlé ici de gestion de crise dans le Super Daily, pour faire rapidement, effectivement, être en veille permanente, écouter ce qui se dit, agir et s'organiser vite. Ça, c'est quand même très important, avec un enjeu dans ce genre de situation pour une marque, c'est de faire en sorte d'être prêt avant que la presse s'en mêle. Parce que quand les médias nationaux, quand ça commence à sortir de la bulle social media, c'est là sans doute que vous allez au devant d'un buzz durable et sans doute aussi
C'est là où on va passer dans le vrai procès pour le coup.
Voilà, et c'est là où ça risque d'être long surtout, et vous allez vous trimballer ça pendant un petit moment. Alors, je disais attention à ces annonces de marque. On l'a déjà dit, on le redit. Attention à ce qu'on raconte en ce moment. On est tous tentés, côté marketeur, côté marque, de prendre la parole, de se positionner comme une marque engagée. Attention jusqu'où on va de ce côté-là. Et puis alors effectivement, s'agir de s'organiser, communiquer avant que la presse s'en mêle, ça c'est important aussi. Et puis aussi, stopper, alors des trucs tout bêtes, mais ça c'est plus côté CM, stopper immédiatement la programmation automatique de vos posts, détecter quand il y a un buzz qui est en train de sortir, et attention à ce qu'on raconte derrière, parce que on a déjà vu de nombreux cas comme ça de marques qui continuent à communiquer ou qui avaient encore des campagnes de pub qui tournaient. On met tout en stand-by, faut analyser, et puis il faut prendre le temps aussi d'élaborer une défense adaptée.
Et donc quand on travaille sa défense, donc déjà très vite, enfin le plus vite possible, mais sans se presser, faire un communiqué de marque, l'annoncer. Mais attention, c'est pas un communiqué d'une crise classique, d'une crise comme notre marque a l'habitude de le voir. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour annoncer des excuses bidons. Il faut des choses qui se mettent en place très vite. On est sur des réseaux sociaux qui vont pouvoir trouver toute trace de manquement. Si vous avez un PDG qui doit sortir du jeu pendant quelques semaines, le temps d'enquêter, il faut vraiment le faire. Et puis, faire gaffe à ce que ces tweets soient pas surveillés dans les semaines à venir.
Ouais, l'important.
Faut pas que ça soit bidon.
L'important pour moi dans une réponse officielle comme ça de Marc sur un énorme bad buzz en mode cancel culture, c'est de rester serein, transparent et authentique. Alors ça a l'air assez simple dit comme ça, mais concrètement, si je dois être, il faut rester profil bas. Hein. C'est clair que s'il y a eu bad buzz, c'est qu'à un moment donné, il y a eu incompréhension, que vous le vouliez ou non. Et quelque part, bah, s'il y a eu incompréhension, c'est que vous avez mal communiqué, que vous avez mal fait votre travail. Ça se joue parfois sur des subtilités, hein, comme le cas de L'Oréal par exemple. Hélas, du coup, c'est important de prendre la mesure de tout ça et puis peut-être aussi d'incarner la marque. Hein. Ça, de plus en plus, on s'en rend compte. On a besoin d'une marque qui est incarnée. On a besoin aussi de rapporter de l'humain dans ce genre de situation. Je pense notamment à la sortie qu'avait fait Guillaume Gibault hein, quand le slip français s'était retrouvé dans la tourmente. Et Guillaume Gibault, il avait pris la parole dans les médias suite à l'affaire de cette blackface et il avait été le plus authentique et transparent possible en réexpliquant la situation. En expliquant évidemment dans quel embarras ça mettait la marque et en invitant évidemment tout le monde à ne pas considérer que les agissements d'une personne impliquaient l'intégralité de la marque.
C'est clair qu'une marque incarnée et la prise de parole d'un dirigeant ou d'une personne importante et engagée de la marque, ça change tout, ça change la perception qu'on peut en avoir, hein, même d'un communiqué de presse, ça peut paraître froid et pas assez sérieux. Donc une personne incarnée pourra largement mieux remplir le rôle.
Voilà, et puis allez, pour faire un peu d'ouverture, c'est ce que tu dis tout à l'heure, oui, il faut coacher ses collaborateurs. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout fait aujourd'hui dans les marques. C'est quand même très dangereux à imaginer. Tout le monde est acteur en fait d'une marque, qu'on le veuille ou non, y compris dans son quotidien. Quand la porte du bureau est fermée, ben, que vous le vouliez ou non, quand vous êtes un C-level, quand vous êtes le dirigeant, quand vous êtes le directeur marketing, et ben en fait, vous continuez à être le représentant de la marque, y compris dans votre cercle privé. Donc ça, c'est quand même très important, je pense, de prendre un moment rapidement là pour briefer tout le monde et leur dire attention, regardez ce qui se passe. Ça, c'est la responsabilité de vous, hein, chers amis social media manager, CM, pôle social media chez l'annonceur, de mettre tout le monde autour de la table et dire attention, voilà ce qui se passe. La cancel culture, c'est un symptôme de notre époque. Il faut tous être très vigilants sur ce qu'on dit.
Exactement. Et vous tous qui nous écoutez et qui portez le t-shirt du Super Daily, s'il vous plaît, soyez correct quand vous l'avez sur les épaules.
Oui, t'as raison.
On sait jamais.
T'as raison, on sait jamais. Voilà, chers amis, ce qu'on pouvait se dire ce matin sur la cancel culture. Vaste sujet. On serait ravis de continuer avec vous la discussion sur nos réseaux sociaux @supernatif.
Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok, un peu partout.
Voilà, et merci à vous tous d'être si nombreux à nous suivre chaque matin. Voilà, on est ravis de voir les statistiques de ce podcast continuer à grimper, voir que vous êtes de plus en plus à nous écouter chaque matin. Donc un grand merci à vous. N'hésitez pas à continuer à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux ou alors même, pourquoi pas, tiens, en MP directement à un pote ou une pote. Peut-être que ça pourrait l'intéresser.
Voilà, à coup sûr, nous vous souhaitons une très bonne journée.
Très belle journée à tous.
À demain.
Et à demain. Salut tout le monde. Ciao.